France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et avec Alexandra Ben Saïd, nous recevons ce matin dans le grand entretien l'eurodéputé écologiste qui va conduire la liste verte, EELV, aux élections européennes. Beaucoup de questions, j'attends les vôtres au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Emmanuel Macron s'est vu décerner par l'ONU le titre de champion de la Terre pour son action en faveur de l'écologie et du climat. Dans le discours qu'il a prononcé devant l'Assemblée Générale de l'ONU, il a dit et redit quelle était l'urgence à agir en la matière. Alors, est-ce qu'en dépit de la démission de Nicolas Hulot, le président français ne reste pas l'une des voix les plus fortes sur le sujet? Quel autre chef d'État, d'après vous, Yannick Jadot, d'un pays comparable, parle ainsi?
Incontestablement, les Nations Unies ont voulu récompenser le discours d'Emmanuel Macron, notamment le discours qu'il avait fait après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Donc dans ce cadre-là, on peut comprendre cette récompense. Mais vous savez, moi, au moment du discours d'Emmanuel Macron à l'Assemblée Générale des Nations Unies, j'étais à Strasbourg. J'étais à Strasbourg sur la question du projet autoroutier de contournement. J'étais avec le maire de Kolbsheim, j'étais avec Germain Schell, 89 ans, qui se bat contre le saccage de la forêt de la plaine d'Alsace. J'étais avec les militants, j'étais avec la pasteur et toutes ces personnes aujourd'hui rassemblées qui défendent leur patrimoine naturel, qui défendent leur patrimoine culturel, qui défendent leur terroir, ont considéré que Emmanuel Macron n'était pas le champion de la terre, mais le champion de la terre brûlée. Donc il y a l'écologie des discours et il y a l'écologie des faits, l'écologie des actes.
Ce ne sont que des mots.
Ah bah, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, ce sont des mots. Make the planet great again,
font des
c'est
discours.
Un slogan. Mais quand le président Macron est président d'un pays, la France, dont les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté l'année dernière, quand le président Macron décide pour son gouvernement de continuer à importer de l'huile de palme d'Indonésie participant à une déforestation massive
donc ça
et
n'est
au
pas
réchauffement
un ami
climatique.
De la Terre. Ça n'est pas un ami de la Terre.
Quand il soutient un projet de mine d'or en Guyane qui va saccager notre Amazonie, ça ne participe pas de la résolution des problèmes, ça contribue au problème.
Et quant à l'ONU, Emmanuel Macron défend le multilatéralisme lorsqu'il fustige la loi du plus fort, lorsqu'il défend cette idée que la souveraineté n'appartient pas aux nationalistes. Est-ce que là, Yannick Jadot, vous êtes dans le même camp, sur les valeurs?
Bien sûr que je soutiens le multilatéralisme. Si je me bats autant pour l'Europe, c'est que je pense que aujourd'hui l'Europe, au fond, c'est le front civilisationnel, au sens où c'est l'Europe qui, aujourd'hui, peut à la fois porter dans les enceintes internationales la régulation publique de la mondialisation, un projet de paix, un projet de défense des valeurs universelles, l'état de droit, la démocratie, les libertés individuelles. Si je défends l'Europe, c'est parce que je considère que on a absolument besoin de l'Europe pour la protection de la santé et de l'environnement. Donc bien sûr que le nationalisme, à la fin, comme le disait Mitterrand, c'est toujours la guerre. Mais quand il s'agit d'agir, quand il s'agit de porter justement ce projet européen, moi j'ai entendu le président Macron au Parlement européen. Il a parlé de souveraineté européenne, bravo. De souveraineté climatique, bravo. De souveraineté alimentaire, bravo. Mais dans la réalité, quand il signe un accord de libre-échange avec le Canada...
Le CETA, fait un an d'application.
Le CETA.
On n'a pas été envahi de bœuf canadien, Yannick Jadot.
On n'a jamais dit que ça allait arriver la première année, puisque les Canadiens sont en train de mettre en place une filière viande bovine qui se produit dans des conditions absolument abominables de souffrance animale, dans des élevages concentrationnaires, avec très peu de contrôle vétérinaire. Nous avons augmenté de 50% nos importations de pétrole issu des sables bitumineux. C'est le pétrole le plus sale qu'on peut extraire de la terre. Donc finalement, quand Emmanuel Macron soutient cet accord-là, quand il soutient la négociation d'un accord avec le Mercosur, Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, ça va se transformer en saccage de l'Amazonie, encore pour élever de la viande bovine. Et c'est au fond Ça n'est pas de la souveraineté alimentaire, ce n'est pas de la souveraineté climatique, c'est la mondialisation de la malbouffe, c'est la mondialisation de la souffrance animale, c'est l'emballement climatique qui est créé. Donc moi, les discours, bravo, mais la seule chose qui intéresse les Françaises et les Français, les Européennes et les Européens, ce sont les actes, et pardon, sur les actes aujourd'hui, Emmanuel Macron participe davantage de la crise climatique que de sa résolution.
Quel regard portez-vous, Yannick Jadot, sur les premiers pas de François Rugy, le successeur de Nicolas Hulot?
Le premier jour d'arrivée de François de Rugy à son ministère, Édouard Philippe a reporté à 10 ans les objectifs de la loi de transition énergétique. Je pense que tout était dit. François de Rugy aura un ministère de la figuration. Je le regrette, parce que la crise écolo, elle n'attend pas l'alternance de 2022. Donc il faut absolument trouver tous les moyens pour essayer de protéger la biodiversité.
Faites pas un procès d'intention sur l'écotaxe, il semble prêt.
Ben, j'attends de voir. Tant mieux s'il le fait, enfin. Mais alors, qu'on m'explique pas qu'il faut faire le grand contournement de Strasbourg parce qu'il y a énormément de camions qui traversent l'Alsace parce qu'on n'a pas d'écotaxe et qu'on va mettre quand même en place l'écotaxe. Moi, j'attendais de François de Rugy qu'il arrête le massacre de la forêt.
Et sur le nucléaire, on l'a entendu très ferme sur EDF, sur la possibilité de construire de nouveaux EPR. Il a été plus que sceptique, il a été ironique. Là, il va y avoir un moment de vérité à la fin du mois d'octobre. On va avoir la feuille de route énergétique. Vous ne lui laissez pas un peu de crédit jusqu'à ce moment-là?
Mais moi, je ne fais qu'espérer que ce gouvernement va respecter la loi.
Il ne vous a pas rassuré par ce scepticisme?
Est-ce que dans son histoire, François de Rugy a combattu le nucléaire? Bien sûr. La question est, Nicolas Hulot ne voulait pas non plus des nouveaux EPR. Nicolas Hulot veut favoriser les énergies renouvelables, ou voulait favoriser les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Ce que je constate, malheureusement, c'est que la France est très en retard sur les énergies renouvelables. On n'est même pas raccord avec nos objectifs européens. Donc on est d'une certaine façon hors la loi européenne, que nos émissions de gaz à effet de serre continuent et qu'on a toujours l'impression que finalement c'est Édouard Philippe, le grand homme d'Areva, qui décide de la politique énergétique sur instruction d'EDF. Enfin, pardonnez-moi, on est quand même dans un pays étonnant. On nous fait matin, midi et soir l'affaire Benalla. OK? Il y a Édouard Philippe a été patron des relations publiques d'Areva entre 2007 et 2010.
Ça veut dire patron du lobbying.
Avec Anne Lauvergeon. À une époque où...
Quel rapport avec Benalla?
Non, ce que je veux dire, c'est que moi, j'aimerais qu'il y ait une commission d'enquête sur le fait que 1,8 milliard d'euros d'argent public a disparu de Areva à cette époque-là sur l'affaire Uramine. 1,8 milliard d'euros. Depuis, tous les ans, on ajoute des milliards et des milliards dans le nucléaire. Pas une commission d'enquête pour savoir comment est géré cet argent, pourquoi cet argent disparaît, s'évapore. Eh bien, il y a des gens qui ont été en responsabilité. Je préférerais qu'on nous divertisse un peu moins avec Benalla et qu'on aille un peu plus sur les sujets de fond qui nous concernent.
Êtes-vous satisfait, Yannick Jadot, par la solution trouvée sur l'Aquarius, solution à plusieurs États européens, là où de nombreuses voix demandaient à la France d'accueillir le bateau?
Ce que j'aimerais, c'est que pour un bateau qui applique une règle humanitaire de base, l'assistance à personne en danger, on n'est pas à chaque arrivée de l'Aquarius une négociation européenne en catastrophe, en situation de crise. Ce bateau, aujourd'hui, c'est une partie de l'honneur européen. Vous savez que l'Europe confie de plus en plus aux bandes armées libyennes ou au gouvernement marocain la gestion des migrants. Ça se fait dans des conditions épouvantables que nous ne voulons pas voir. Il y a un bateau qui sauve des vies et on a l'impression que pour 58 rescapés, à chaque fois, c'est une crise européenne. Moi, j'aimerais que, comme l'Europe...
Mais la réponse est européenne.
Bien sûr. Mais j'aimerais que, comme l'Europe est aujourd'hui capable de donner des passeports européens à des réfugiés politiques, l'Europe ait la fierté, l'honneur d'accorder un pavillon européen à l'Aquarius, parce que finalement, ce bateau, avec d'autres, fait ce que nos gardes-côtes ne font plus.
Donc vous ne faites pas le procès au gouvernement et à la France de ne pas accueillir le bateau? Vous pensez qu'il faut respecter la règle européenne qui n'est pas celle-là?
Si vous voulez, moi, quand cette affaire est sortie, j'ai été glacé par les réponses des membres du gouvernement qui consistent à dire il y a des règles, le bateau doit avant arriver à Malte plutôt qu'arriver à Marseille. J'aurais aimé que le gouvernement français dise nous accueillons avec honneur, fierté, l'Aquarius qui vient de sauver des vies à Marseille. Parce que, encore une fois, c'est l'honneur de cette association que de sauver des vies, ce serait l'honneur de l'Europe.
En même temps,
de
on le peut reconnaître. Pas se...
Nous, les écologistes, on peut proposé que SOS Méditerranée, notamment, et Médecins Sans Frontières qui travaillent sur l'Aquarius,
soient plus à 40. Parce qu'on ne peut pas se désoler à la fois que l'Italie ne respecte pas les règles européennes et se désoler que la France les applique.
Alors là, si vous voulez, il y a eu 750 000 réfugiés en Italie. La réponse de la France a été d'installer une frontière à Vintimille et avec le reste de l'Italie.
Je parle de l'Aquarius.
Oui, moi je parle de ce qui se passe avec l'Italie. Salvini est un monstre, mais ce monstre a été élu. Et malheureusement, les politiques européennes et les égoïsmes nationaux ont nourri la bête Salvini. Donc moi, j'espère toujours qu'il y ait une véritable politique de droit d'asile européenne, qu'on casse l'accord de Dublin qui est une aberration absolue et qu'enfin, on accueille ces réfugiés avec dignité. Vous savez, j'ai juste un exemple, je discutais avec Damien Carême. Hier, qui a rejoint notre liste pour les européennes, le maire de Grande-Synthe, qui à la fois est exemplaire sur la gestion de sa ville et à la fois exemplaire dans l'accueil des réfugiés. Et il m'expliquait que un des réfugiés qui était sur Grande-Synthe aujourd'hui est un médecin syrien qui veut s'installer à Grande-Synthe parce qu'on manque de médecins à Grande-Synthe. Et ben ça, c'est un bel exemple de toutes les énergies vitales qui arrivent, y compris sur ces bateaux.
Yannick Jadot, une question de politique européenne. Manuel Valls s'en va à Barcelone, il va faire campagne pour les municipales. Que dites-vous ? Que lui dites-vous ? Bon débarras ou bon courage ?
Bonne chance. Si vous voulez, moi, je ne fais pas un procès. Incontestablement, il était dans une impasse politique dans notre pays. Il veut construire une nouvelle aventure. Je ne partage pas les mêmes idées que Manuel Valls sur beaucoup de choses. Maintenant, il a envie de cette aventure-là. Ce seront les électeurs barcelonais qui trancheront.
Ça n'est que ça, ça n'est qu'une gestion de carrière politique. On ne peut pas y voir une bonne nouvelle, et elles sont rares hein, en Europe, l'idée qu'on peut avoir une double identité politique, l'idée bien qu'un sûr. Homme puisse se présenter au-delà de ses frontières.
Mais je trouve ça, vous avez raison, je trouve ça très bien. Mais Manuel Valls est toujours aussi celui qui a joué d'une sorte de d'obsession nationale aussi. Y compris pour ceux qui ont la double nationalité. Donc je suis très bien aujourd'hui qu'il affirme que cette double nationalité, cette double culture doivent être valorisées.
Mmh. Allez, on file au standard. Beaucoup de questions sur France Inter ce matin. Je salue Annie. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour. Yannick Jadot vous écoute.
Oui, alors monsieur Jadot, aujourd'hui, on est bien d'accord, le plus important pour l'Europe et pour le monde, c'est l'écologie. Alors, moi, je pose une question. Pourquoi ne pas faire une liste commune à gauche, pour les européennes, bien sûr, avec Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste, au lieu de se séparer? Voilà, c'est ma question.
D'accord, merci Annie. Yannick Jadot vous répond.
Vous savez, j'entends bien cette inquiétude qu'il y a à gauche à voir les forces qui se revendiquent des valeurs de gauche ou des valeurs de l'écologie se rassembler, parce qu'il y a une sorte de déprime autour de la situation politique. Mais je l'ai dit en début d'interview, va se décider avec les élections européennes une partie de l'avenir de l'humanité. Quand on voit le monde tel qu'il fonctionne, quand on voit la crise écologique, l'Europe est incontestablement l'échelon indispensable. Et je sais que le groupe Vert, depuis 40 ans, a des élus au Parlement européen. Je sais les combats qu'on a menés, les victoires qu'on a eues, que ce soit sur l'huile de palme, que ce soit sur la pêche électrique, que ce soit sur les OGM, sur l'ambition sur les énergies renouvelables. Et je ne veux pas que dans cette élection européenne, on perde de vue, on, ce qui est l'enjeu européen. Pour moi, l'enjeu de l'élection européenne, c'est pas la recomposition de la gauche française.
Qu'est-ce qui vous sépare vraiment de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait de l'écologie l'un des axes forts, l'un des piliers de son programme?
Quand
Jean-Luc... La question d'Annie, c'est unis, on est plus fort, divisé, ça semble suicidaire.
Sauf que c'est pas exact quand il s'agit d'une proportionnelle à un tour. Plus, au fond, on valorise ses idées, plus sa ligne est claire et plus, finalement, on a d'élus au Parlement européen. Mais quand Jean-Luc Mélenchon veut faire de ce scrutin un référendum anti-Macron, je considère qu'il n'a pas pris la mesure de la crise qu'il y avait au niveau européen, qu'il n'a pas pris la mesure de la montée des extrêmes droites en Europe. Et pour ma part, je ne déserterai jamais du combat européen. L'idée de renationaliser le scrutin européen pour en faire la revanche de 2017, je considère que c'est une désertion par rapport à ce qu'est l'enjeu européen
Alexandra,
aujourd'hui.
Alexandra, puis Antoine.
Yannick Jadot, est-ce que vous considérez que les progressistes, les démocrates ont perdu la bataille des idées en Europe?
Non. Je ne crois pas. Les enquêtes d'opinion, au fond, montrent davantage une attente de transformation des politiques de l'Union européenne, qu'au fond, une volonté de rupture avec l'Union européenne. Par contre, si les institutions européennes sont devenues détestables, le libéralisme comme horizon, la technocratie comme méthode, l'austérité comme solution, ce n'est pas le fait des anti-européens, ce n'est pas les europhobes qui ont construit ces politiques-là, c'est ceux qui ont géré l'Europe depuis des années. Ceux d'ailleurs que veut rassembler Emmanuel Macron dans une sorte de gros corps mou européen prétendument progressiste. Donc le débat, c'est comment révolutionner, changer l'Europe de l'intérieur, ce que font les écologistes, pour que justement on investisse. Quand les écologistes proposent un plan d'investissement de 100 milliards d'euros par an sur les énergies renouvelables, c'est à la fois créer de l'emploi, de l'espoir pour nos jeunes, c'est créer de l'activité économique sur tous nos territoires, et c'est dépendre de l'eau, du vent et de nos déchets, plutôt que de Poutine, de les pétromonarchies du Golfe ou du Gabon, pour nos approvisionnements énergétiques.
Allez, on refile au standard. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour à vous deux, bonjour La France Inter. Je voudrais vous poser une petite question simple. Moi, j'ai voté écolo, et je crois que je ne voterai plus jamais écolo, parce que l'écologie, c'est synonyme de punition, c'est toujours une écologie punitive. Par exemple, je prends l'exemple du gasoil, on nous prend vraiment pour des clowns en nous disant qu'il faut augmenter le gasoil, et puis on commence à nous dire que finalement, l'essence, ça ne polluerait peut-être pas tant que ça. En réalité, moi, je fais partie des classes moyennes, je suis un provincial, et on nous ajoute des taxes, donc l'écolo, bah, je suis désolé, mais c'est fini pour moi.
Merci Michel pour cette question, Yannick Jadot.
Il a raison, je comprends parfaitement l'argument. J'ai participé au comité sur la fiscalité qui a recommandé l'alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence. Il y avait une niche fiscale sur le diesel et c'était l'alignement. Qu'est-ce qu'on recommandait à ce moment-là? C'était de dire que à chaque fois qu'on va monter d'un centime, ça fait 3 à 400 millions d'euros. Eh ben, ces 3 à 400 millions d'euros vont pas venir abonder le budget de l'État et faire des automobilistes des vaches à lait, mais vont les aider à changer de mode de transport. On va avoir, dans l'année prochaine, 2,8 milliards d'euros liés à cette taxation des carburants notamment et du carbone. Eh ben, ça va abonder le budget commun sous prétexte d'écologie, alors que le seul sujet, ce serait d'améliorer les petites lignes, ce serait d'investir dans le tram, ce serait d'aider beaucoup plus fortement les automobilistes à changer de véhicule. C'est ça l'écologie. Sinon, effectivement, c'est punitif.
Et ça n'est pas dans le budget.
Alexandra.
Il y a quand même une augmentation du budget de l'écologie, il y a des milliards mis sur la transition, les nouvelles mobilités, ça ne vous suffit pas?
C'est à peu près stable au niveau du budget de l'écologie, alors que c'est censé être le grand défi.
Une augmentation de 3%?
Le ministère perd à peu près 1000 emplois par an, mais vous savez, l'écologie c'est un budget, vous avez raison. Je regrette que par exemple toutes les aides pour installer des doubles vitrages et tout ça soient en train de disparaître, mais l'écologie au-delà du budget du ministère. Est-ce qu'on interdit ou pas le glyphosate, ou on se retrouve dans la même situation que le chlordécone dans les Antilles où
c'est
on va
une affaire avec, d'État, avec des... un scandale d'État, demande un auditeur sur l'application d'Inter, cette affaire du chlordécone.
Bien sûr, Bien sûr que c'est un scandale d'État. À partir du moment où vous avez des autorités publiques qui, en toute connaissance de cause, ont autorisé l'utilisation du chlordécone pendant près de 20 ans alors que les États-Unis avaient arrêté, c'est un scandale d'État. Et je considère que c'est aussi un scandale d'État quand on apprend que le glyphosate est dangereux, cancérogène, qu'on apprend maintenant avec nos nouvelles études que ça participe de la très forte mortalité des abeilles. Et je serai dimanche avec les apiculteurs bretons pour les défendre. Eh ben, c'est un scandale d'État de confier à la FNSEA, qui doit visiblement boire du glyphosate matin, midi et soir, de leur confier la sortie du glyphosate.
Voilà pour la réponse à Martin. Yannick vous demande, toujours sur l'application France Inter, énergie renouvelable, d'accord, mais devons-nous continuer les éoliennes qui défigurent les paysages et sont bruyantes, Yannick Jadot?
Quand vous produisez de l'énergie, il y a toujours une pollution. C'est pour ça que les écologistes proposent d'investir massivement dans les économies d'énergie, dans l'efficacité, investir dans la rénovation de nos logements, c'est des artisans sur tous nos quartiers, sur tous nos territoires, et c'est des factures d'énergie allégées pour nos concitoyens.
Vous dites que la nuisance éolienne est moins forte
que
les
la nuisance
autres.
Nucléaire. Eh oui, que la nuisance nucléaire.
Vous c'est savez, moche, ça y a fait du bruit, mais c'est réversible.
Non, il y a des règles. Une éolienne tombe. Au pire, il y a un lapin qui est en difficulté. Une centrale nucléaire explose. Pardonnez-moi, c'est une catastrophe pour l'ensemble d'une région. Et je serai d'ailleurs, toujours l'écologie de terrain, vendredi, en train de visiter la première éolienne au large du Croisic, qui va fournir Enercoop, coopérative d'énergie renouvelable citoyenne. C'est une très bonne nouvelle.
Allez, on file au standard pour une dernière question. Bonjour Lucille.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Eh bien, justement, je vais... Bonjour et merci. Je vais enchaîner sur le scandale d'État et je suis tout à fait étonnée que notre président de la République, qui est un jeune homme si brillant, n'ait absolument pas compris le danger pour toute la planète. Enfin, pas pour la planète, elle s'en fout, la planète, mais pour l'humanité, pour nous hommes, de destruction totale à cause de cette évolution climatique pour laquelle on ne fait rien. Et alors, je voulais demander à M. Jadot, justement, si, profitant du coup d'éclat que j'ai beaucoup apprécié de M. Hulot, ce dernier ne pourrait pas lancer un vaste mouvement citoyen pour crier au secours, on est en ce moment, on est en train de faire un crime contre l'humanité.
Merci Lucille, on transmet la question à Yannick Jadot. Monsieur Hulot, ne pourrait-il pas lancer un grand mouvement fédérateur?
Les écologistes ont lancé un grand rassemblement des écologistes pour les européennes. La question du climat, la question de la santé, la question de la biodiversité, ce sont des questions qui doivent être traitées à l'échelle européenne. Évidemment, les pays ont une responsabilité, et on le voit dans le cas de la France. Mais c'est à l'échelle européenne qu'il faut absolument organiser cette transition.
Répondez à Lucille. Il vous manque Nicolas Hulot?
Mais il a dit lui-même que finalement, la question de l'écologie, c'est pas la question de l'homme providentiel. Lui-même l'a acté dans vos studios en disant, voilà, il suffit pas d'être Nicolas Hulot dans un gouvernement pour que ça change. Donc moi, je veux participer, contribuer fortement à un rassemblement des écologistes pour qu'il y ait une force politique qui soit satisfasse, madame, au fond. Quand elle dit « je veux des écologistes pour agir » et les écologistes au Parlement européen agissent, moi, mon sujet, c'est que on soit meilleur, qu'on soit plus convaincant. Et la démission de Nicolas Hulot est un énorme moment de clarification entre l'écologie de l'affichage, qui est l'écologie de ce gouvernement, et l'écologie du courage qu'incarnent les écologistes.
Pour reposer la question de Lucille, est-ce qu'il pourrait vous être utile à nouveau, Nicolas Hulot?
Je crois que son message à la fin de l'interview chez vous, c'était « laissez-moi tranquille maintenant ». C'est « j'ai besoin de repos, j'ai besoin de prendre du recul et évidemment, il faut répondre à cette demande ».
Merci Yannick Jadot d'avoir été au micro d'Inter. Je rappelle que vous allez conduire la liste Europe Écologie Les Verts.
La liste des écologistes.
Des écologistes, c'est mieux. Aux élections européennes, vous êtes vous-même eurodéputé.